Par la force des choses, il va falloir que je fasse ma communication en bonne et due forme radiophonique, avec un micro, un magnétophone, du bruit autour et du son, sans image à l'autre bout. En ce moment, il me semble que la radio traverse ce qu'on peut appeler une crise narrative. Elle se traduit par une sorte d'obsession avec ce qu'on désigne comme du storytelling, comme si le fait que le terme soit anglais change quelque chose à ce qui est, en fait, une narration, pour la plupart du temps, linéaire, réaliste et de préférence personnel. Alors j'avoue que cela m'a été salutaire de revisiter l'œuvre de Michel Butor, dont je ne suis pas une spécialiste, parce que cela m'a permis de comprendre pourquoi j'ai cherché son intervention dans un certain nombre de mes documentaires sonores. Documentaires sonores qui, la plupart du temps, et j'ai des projets qui ne concernaient pas directement son travail à lui. Et je pense, pour le dire un peu rapidement, c'est que pour moi, le documentaire sonore est en quelque sorte le royaume de l'imaginaire, mais un imaginaire basé sur le réel. Ni Hörspiel, ni art acoustique, ni fiction, ni musique, ni, et surtout pas, reportage. Dans la pléiade des formes radiophoniques, le documentaire sonore de création est un genre hybride, mutant, bâtard, un peu orphelin. Il se contente de proposer un univers composé de sons réels prélevés à la vraie vie, des sons qui seront découpés, déplacés, décontextualisés, bref, déréalisés. Le documentaire sonore comprend intimement, pour citer une phrase de Butor, que l'imaginaire est dans le réel et que nous voyons le réel par lui. Il me semble que j'ai rencontré Michel Butor pour la première fois en 1981. Que c'était aux Ondes, le café des rendez-vous radiophoniques, et que le prétexte était une émission que je faisais pour l'Australie concernant la collaboration de Butor avec l'artiste américain Grégory Mazurowski. Pourtant, ce n'est pas de ce projet que nous avons parlé. Nous avons parlé de l'Australie. Butor avait déjà fait trois voyages aux Antipodes en 68, 71 et 76. Boomerang, le troisième tome de la série Génie du lieu, avait été publié en 1978. Je me souviens encore de sa façon de parler des couleurs typographiques utilisées dans ce livre. Du noir pour les pages concernant l'Afrique, The Dark Continent, du bleu pour l'Amérique, la turquoise selon les Indiens et des morceaux du ciel, et du rouge pour l'Australie. J'aime les pays rouges, a-t-il dit, et l'Australie est le pays le plus rouge que j'ai jamais vu. Logique implacable, pataphysique, poétique, qui m'a beaucoup plu. Des mots dans la peinture, des couleurs pour les mots, et moi aussi je suis peintre, disait un autre poète. À partir de cette première rencontre, je pense que j'ai dû solliciter la participation de Butor dans une dizaine de mes projets, aussi bien pour l'ABC, la radio australienne, que pour l'ACR de France Culture. Je vais vous proposer d'écouter des extraits de trois de ces émissions. Et autour de ces extraits, je vais égrener quelques réflexions. Le premier extrait provient de Combien de lieues jusqu'à Babylone, un ACR qui date de 1999. Ce fut ma dernière collaboration avec Butor. L'émission est composée de quatre séquences thématiquement liées, mais autonomes, dont deux séquences avec Butor. Et elle fait semblant de parler de manège, mais et la métaphore est transparente et très simple. Elle parle en réalité du temps qui passe, comme les chevaux d'un manège, comme le son qui passe pour revenir en souvenir. Il me semble que c'est ce son qui est souvenir qui constitue la matière même de ce que Butor a nommé la littérature spéciale de la radio. Alors un petit extrait de Combien de lieues jusqu'à Babylone qui dure 7 minutes.
Combien de lieues jusqu'à Babylone? Par Kay Mortley. Manège, manège. Avec Michel Butor.
On parle de manège, de chevaux de bois et on parle aussi de carrousel, qui désignait les grandes fêtes nobles avec des chevaux, d'où la place du carrousel à Paris avec son arc de triomphe.
How many miles to Babylon?
Ben,
3 score miles and 10.
Can I get there by candlelight?
Yes, and back again. If your heels are nimble and light, you may get there by candlelight.
Babylone, ça évoque deux choses à la fois. Ça évoque la ville de Babylone, donc la grande ville corrompue, etc. Alors, comment faire pour aller jusqu'à cette ville? Mais ça évoque aussi l'enfance, parce que dans Babylone, il y a bébé. Hein. Alors, c'est pour ça que c'est tout à fait la foire. Babylone, c'est la foire dans laquelle les enfants profitent de ce qu'on ne leur laisse pas voir généralement.
How far is it to Babylon?
Avant le mot manège, chevaux de bois, il y a le manège équestre, c'est-à-dire la salle dans laquelle on apprend à faire du cheval. Et alors, on tourne autour du manège. On tourne en rond dans le manège, oui, mais le manège lui-même n'est pas forcément rond.
Manège avec Michel Butor.
Le manège de chevaux de bois tourne sur son axe. Oui.
Je voudrais que vous vous rappeliez ceci. Un manège est rond et il tourne sur lui-même. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas rond et qui ne tourne pas sur lui-même, alors ce n'est pas un manège.
Tourne, tourne, tourne. Tourne, 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 tourne.
Ah, voilà un magnifique cheval de manège. Il se dresse. C'est un cheval qui caracole. Et puis, il a une robe toute blanche. Et puis, un harnachement rouge et jaune, le jaune, évidemment, évoquant l'or. Il a une bonne tête, enfin, il a un bon regard, ce cheval. Là, il y a des... Là, on voit des cochons. C'était la figure de l'abondance, de la nourriture. Et puis, voilà une sirène. Ça, c'est une sirène qu'on chevauche. Ici, voilà un très joli manège encore. Les chevaux ont disparu ici. Il y a encore le limonaire qui est au milieu avec ses tuyaux de bois. Et puis, le déroulement des cartons perforés avec ces rectangles, hein, ces trous plus ou moins allongés. Ça, c'était une littérature tout à fait spéciale. C'est une inscription de la sonorité. Tout ça, ce sont des petites bouches qui se mettent à parler. On les fait passer dans la machine et la machine leur donne la voix. Mais il y a des sons qui nous rappellent immédiatement certains moments de notre vie. Par exemple, quand j'entends le son d'une sirène industrielle, immédiatement, je me retrouve plongé dans la guerre. Quand j'entends le son d'un limonaire, je suis tout de suite dans les chevaux de bois. J'habitais à Paris, j'habitais rue de Sèvres quand j'étais enfant. Et mes parents nous promenaient souvent au Luxembourg. Alors le manège, c'était le manège du jardin du Luxembourg. Et je me souviens en particulier qu'il y avait, une sorte de jeu, en plus du manège lui-même. On donnait aux enfants une baguette, oui, comme une espèce de broche avec un manche. Et il s'agissait pour eux de faire entrer la baguette dans un anneau qui était accroché à une sorte de tableau. Et lorsqu'on mettait la baguette dans l'anneau, l'anneau se détachait. Et si on avait réussi à décrocher un certain nombre d'anneaux, on avait un tour supplémentaire gratuit. Bon, j'étais très maladroit.
Et quand on fait un tour de manège, où est-ce qu'on est ?
Oh, quand j'étais sur un cheval de manège, alors j'étais partout. Hein. Je faisais le tour du parc, le tour de la France, le tour du monde. Aujourd'hui, j'aime mieux voyager pour de vrai. Ces substituts sont pas assez forts pour moi.
Peut-être que vous avez écrit sous les manèges.
Non, jamais. J'aurais pu, mais j'ai jamais écrit sur les manèges, non. Peut-être que ça viendra.
Tourne,
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 tourne.
Combien de lieues jusqu'à Babylone ?
Cette émission, de même que toutes les autres, était toujours en production lorsque j'ai enregistré Butor. Et d'ailleurs, l'enregistrement s'est fait à Lucinge, chez lui. Avant l'enregistrement, je pense que j'ai dû lui résumer mon intention et énumérer les éléments sonores que j'avais enregistrés pour la pièce. Pendant l'enregistrement, je lui ai probablement posé peu ou pas du tout de questions, parce qu'en général, j'en pose très peu. Je n'ai pas d'attente spécifique de la personne qui est en face de moi. J'écoute sa parole. Mon écoute est le seul vrai questionnement. Et la parole, on le sait bien, est à moitié à celui qui parle, à moitié à celui qui écoute. Mais quand même, il y a une chose qui m'a toujours frappée chez Butor, c'est qu'il suffisait de lui indiquer un terrain, et même un terrain vague, comme celui de Babylone, pour qu'il trouve le meilleur chemin pour s'y rendre. Alors, un jour, Michel Butor m'a dit, et dans quel contexte, je ne sais plus, le son est toujours de l'autre côté de l'horizon. En fait, il était rare qu'il évoque le son pendant nos entretiens, malgré le fait qu'une certaine partie de son travail pour la radio est franchement autoréférentielle. Il s'agit de la radio qui parle de la radio. C'est au printemps qu'on moissonne les moutons et un ACA de 85 qui vient de l'autre côté de l'horizon et de l'autre bout du monde. Le sujet ostensible est la tonte des moutons en Australie. Mais le vrai sujet, le sujet sous-jacent, souterrain, et que j'aurais du mal à exprimer en mots, a été déclenché par une phrase croisée dans Boomerang, alors que je vivais déjà à Paris. Butor a écrit « Je savais que quelque chose m'attendait dans ce pays, une sorte de crudité, un élixir qui un jour serait le baume de mon esprit. » Et en lisant cela, j'ai immédiatement su qu'il faudrait que je fasse une émission qui tente d'exprimer ce que me suggérait cette phrase. Mais qui était quoi? Alors dans ma famille, en fait, il y avait des fermes. Et enfant, j'y allais au printemps lorsqu'on tondait les moutons. Les tondeurs étaient des hommes rudes, taciturnes, à qui je n'osais pas parler. Mais je traînais dans le hangar, je regardais, j'écoutais. À l'époque, je ne savais pas que le lieu où on tondait les moutons était strictement interdit aux femmes et même aux petites filles. Elles étaient censées porter malheur. Moissonner les moutons est un joli néologisme de Michel Butor. L'émission lui doit donc non seulement sa jeunesse, cette phrase qu'il a déclenchée, mais aussi son titre. Et j'ai voulu que lui aussi, il en fasse partie. Seulement, je ne voyais pas au départ quel pouvait être son statut, ni comment il allait aborder un sujet si purement documentaire et si spécifiquement australien. Quand je réécoute aujourd'hui, il me semble que son discours, qui s'emballe et s'envole assez souvent, passe quand même par les trois étapes classiques et raisonnées de thèse, antithèse, synthèse. Peut-être sa façon de s'approprier d'un territoire et de structurer un réel en même temps que de le rêver. Alors, dans une première intervention que nous n'avons malheureusement pas le temps d'écouter, la thèse proposée, et qui est absolument correcte, est que le tondeur était très probablement un ancien bagnard. L'antithèse se trouve dans l'intervention que nous allons écouter maintenant. Et c'est que dans un concours de tonte de mouton sur scène, cet ancien bagnard change de statut. Il se transforme en héros, en seigneur.
J'ai vu seulement une fois un championnat de vitesse de tonte de mouton dans un théâtre. Alors, sur la scène arrivaient donc des moutons absolument superbes, enfin, avec des toisons extraordinaires. Et puis les candidats au titre alors s'installaient avec leurs moutons et puis leurs tondeuses, et ils allaient, on minutait, et ils allaient avec une rapidité absolument extraordinaire. Alors le pauvre animal sort après cela, il est vraiment tout nu, hein. Il semble tout gringaler parce qu'il diminue des deux tiers ou des trois quarts de son volume. C'est extraordinaire. Et alors, on voit ce nuage de laine comme ça, que l'on pèse, que l'on emmène. C'est comme une espèce de... un nuage d'où il tomberait de l'or comme ça. Et les gens le caressent, hein, comme une espèce de fourrure ou de femme. C'était des seigneurs, c'était comme un grand musicien, un violoniste. Leur mouton, c'était une espèce d'instrument de musique d'où il tirait quelque chose. Bon, il tirait cette toison, et la toison était la récompense en elle-même. Le moment où il tonde, c'est le moment où il vit véritablement. La laine apparaît à ce moment-là comme une espèce de matière alchimique. C'est grâce à ces toisons que tous ces gens vont vivre. Et la conquête de la toison d'or, c'est la conquête du paradis, bien sûr. Et alors là, ces gens-là vont à la conquête d'un paradis, et il le trouve.
Dans l'instant.
Il le trouve dans l'instant même.
Dans une troisième intervention, où les métaphores se bousculent et l'imaginaire prend des ailes, vient la synthèse qui est que l'ancien bagnard, devenu héros ou seigneur, se métamorphose en figure mythique dans le tableau le plus célèbre, sans doute, du patrimoine australien.
Il y a un tableau célèbre du tournant du siècle qui représente un hangar dans lequel des tondeurs sont en train de travailler sur les moutons. Ils travaillent avec des forces, c'est-à-dire avec des ciseaux, et ils ont les bêtes qui sont couchées à leurs pieds et qu'ils tiennent. C'est une image qui est dans une lumière très, très douce, très dorée. Et il y a évidemment le thème de la toison d'or qui est présent à l'intérieur de cette image. Il a fait briller certaines des boucles, un peu comme des pépites ou comme de la monnaie. Il y a un personnage dans ce tableau qui doit être une femme, hein. Et je ne sais pas très bien ce qu'elle fait là. Il y a là une vingtaine d'hommes. Il y a là un personnage qui est comme une femme de...
C'est un rêve, je crois.
Peut-être. En fait, une femme qui vient voir un peu ce qui se passe.
Des antipodes aux antipodes, un ACR de 1985 aussi, est la seule de mes productions à s'inspirer directement d'une œuvre de Butor. Alors, il s'agit de Boomerang, ce troisième volume des Génies du lieu que j'ai déjà évoqué, qui est composé de 7 trames entrecoupées, parfois enchevêtrées, où il est question d'Afrique, d'Amérique et surtout de l'Australie. Je me permets de dire que c'est un livre assez lisible selon nos normes de lecture habituelles. Un livre intraitable, pourrait-on dire. Intraitable de la même façon que, à mon avis, l'Australie est un sujet intraitable. Il n'y a rien à en dire. Elle résiste à toute définition qui fait sens, ou ce que nous avons l'habitude d'appeler du sens. Et pourtant, Boomerang, c'est un texte qui m'a subjugué. Et non seulement par la finesse de sa perception, mais aussi par l'adéquation de la forme au fond. Forme, d'ailleurs, qui est complètement radiophonique. Michel Buteau fait, avec des blocs de mots, ce que plus d'un documentariste sonore rêverait de savoir faire avec des sons. Boomerang est en fait une énorme accumulation de citations et d'autocitations, provenant de 32 sources différentes, certaines nobles, d'autres populaires. Je m'intéresse tant aux Galeries Lafayette qu'au Musée du Louvre, disait Buteau. Des citations qui sont parfois simplement juxtaposées en bout à bout, parfois mise en relation par l'adjectif rouge qui sert de frontière poreuse. La phrase est de Michel Buteau. Frontière poreuse, donc, entre une région et une autre de ce pays rouge traversé par le lecteur, voyageur, rêveur. Au départ de l'émission, il n'y avait que le livre comme matière, il n'y avait pas de scénario. Il a fallu donc construire une charpente qui tienne lieu de scénario. Cela supposait de faire des coupes énormes dans un texte qui fait 500 pages, tout en essayant de garder l'équilibre et la forme du propos. Mais mon projet pour l'atelier de création, un espace radiophonique, devait donc être sonore. Oui, pour moi, il fallait que du son vienne habiter le texte. Une trame, une nappe de son, non pas pour illustrer la parole, mais pour prolonger sa résonance dans l'espace-temps radiophonique. Un son ne dit pas la même chose qu'un mot. Il ne parle pas le même langage. Il ouvre les portes entre les hémisphères de notre tête, dit Buteau. Le son, même réel, est toujours du côté du rêve. Désincarné, immatériel, fantomatique, il nous permet, dit Buteau, de nous promener à l'intérieur des barrières et des palissades du réel. Barrières et palissades dressées par le langage, ses verbes conjugués et ses temps compartimentés, fracturés.
L'île possède 54 comtés, comme l'Angleterre. Et sa ville principale est assise sur un fleuve qui ressemble fort à la Tamise. Si Raphaël n'a pas jugé bon de préciser à Thomas More sa situation exacte, c'est qu'elle devait être de toute évidence aux antipodes du royaume d'Henri VIII.
Dans un livre comme ça, il n'y a pas un roman. Le seul roman qu'il y aurait, ce serait le mien. Hein, c'est mes aventures en Australie et ailleurs. Mais cela déborde perpétuellement ce qui m'est arrivé à moi pour faire imaginer ce qui pourrait arriver à d'autres. Et je veux que le lecteur se promène ainsi dans mon livre. Et le lecteur est transformé en un voyageur. Et ce voyage que fait le lecteur, c'est un voyage qui ressemble beaucoup à un rêve.
Rouge. Rouge.
Rouge.
Elle a donc un lieu précis. Le malheur, c'est que, son nom l'indique, elle n'y est pas. Et qu'il est vain de l'y chercher.
Yo, kulgu nala mirbi malna na bungu wanga malna palanya ni kana nuranga malna ngana pul ngatung ni malna kunda malna lu we ngana pemangi ngana kanga ni kunda malna kana nande.
D'où viens-tu?
That's that's the one.
That's where you're from.
Mm-hmm.
Oui, c'est de là qu'il vient.
Kalki, le vulga parco. Le vulga marti mal parco, le vulga mal kalki mal parco.
Dommage qu'elle n'ait pas tenu sa promesse. À l'endroit où devait se l'Angleterre australe. Il n'y a qu'un reflet. Elle a la forme de la lune.
Il y a une trame autobiographique et l'autre trame qui domine est l'aborigène.
Mon aborigène. Dengan anak buka ni nawang yang guna darah perungu, ngaji dengan anak perungu, ngur orang guna mari kini malang oli, lili apa le oli, tahu mau panai oli, katanya orang anak buka cerita nawang yang guna main perungu.
Alors que l'aborigène est quasiment absente de l'Australie.
Mari itu lah kamar cik, bukan yang guna guna kan itu lah, monata, wang gan gunda, wang gan, darah pemalma, buku mata darah perujian.
L'aborigène a été en grande partie éliminé du paysage. Et les aborigènes grouillent dans le paysage australien et ils grouillent dans la terre australienne. Ils sont là, ils remplissent le sol d'une certaine façon.
Ici, c'est la plaine de l'Ouest, la porte de l'intérieur. Pas une colline pendant 100 kilomètres. Si plat. De quoi donner peur des collines. Pas de colline.
L'aborigène en Australie est l'habitant fondamental d'un monde qui, à première vue, apparaît à l'Européen comme inhabitable.
Thank you.
aborigène. Lui. Il est là. Autre monde.
La conquête avait chassé l'Australien loin de la terre où reposaient ses ancêtres, et la colonisation allait bientôt livrer ses champs de la mort à la dent des troupeaux. Aussi ces bocages sont-ils devenus rares, et combien déjà sont foulés aux pieds du voyageur indifférent, qui recouvre toute une génération récente, rouge, de retour aux antipodes, à l'autre bout, j'écoute les Indes galantes, rouges.
Au milieu des jonquilles et des tympanons, la guerre, au milieu des orgues et orchidées.
Pistache, œillet, clavecin, poivre.
Platine, nutia, peintre, les intragants.
Platine, fourneau, échidné, diamant.
Lorsque Cook longe la côte est de l'Australie, hein, le pays lui apparaît comme paradisiaque. Dès que l'on s'enfonce, on trouve une nature qui va devenir de plus en plus hostile, jusqu'à être ce désert rouge de l'intérieur, là. Et cet intérieur du continent, on peut dire que c'est une sorte d'autre planète sur la Terre. Hein. C'est la présence sur la Terre de la planète Mars. L'aborigène australien est lié à cela. Il est lié à cette étrangeté fondamentale.
Au milieu des encolis et des flûtes, la guerre. Au milieu des tambourins et anémones, Zahir, la musicienne des palpitations. Le trouble que vous excitez ne peut être que tendre. Croyez-vous ces faveurs le prix de l'inconstance? Utopie. Double virtuel du centre périmé. Cristal en lequel se concentre tout le reproche des autres lieux. Lune qui se met à naviguer pour aller se loger ailleurs.